Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
La corruption est un fléau qui gangrène et freine la croissance au Mali. Selon Transparency International, la corruption a fait perdre à l'État malien 70 milliards de francs CFA en 2015. Le phénomène se manifeste à travers toutes les couches de notre pays. La jeunesse est une couche potentielle qui peut être mise à l'abri et participer activement à la lutte. Alors, comment impliquer les organisations de jeunes dans la lutte contre la corruption? Les débats dans les espaces publics et parmi les jeunes peuvent-ils être mis à contribution? Pour en débattre, nous avons comme invité aujourd'hui Maître Alifa Habib Kone. Maître, bonsoir. Il est président de l'Association des jeunes avocats du Mali. Monsieur Ousmane Maïga, bonsoir.
Bonsoir.
Ousmane Maïga est secrétaire exécutif de l'AJICAD Mali. Et enfin, Monsieur Salihou Guiro, il est chargé de la lutte contre la corruption le long des corridors routiers. Bonsoir, Salifou.
Salifou. Bonsoir. Voilà. Au projet Mali Justice, j'ajoute.
Ok, au projet Mali Justice. Alors, je suis Aliou Sidibé pour la présentation.
Le Grand Dialogue.
Alors, Maître Alifa Habib Kone, quelles sont les causes de la corruption au Mali?
Merci, M. Sidibé. D'entrée, je voulais avoir une pensée pieuse à l'égard de nos disparus, notamment nos deux confrères, Maître Bakary Nerefolo et Oumar Cissé, qui nous ont quittés hier tout près. Et également, une pensée à Maître Ablaye Garba Tapo, qui a été un grand acteur dans la lutte contre la corruption au Mali. Les causes de la corruption au Mali sont multiples et difficiles à égrener. Monsieur Sidibé, on pourrait passer toute la journée, toute la soirée à en parler. Mais en fin de compte, je me demande à ce jour s'il ne faut même pas chercher la cause dans la société malienne. Parce que la corruption, à notre niveau, nous passons la journée avec, nous allons au lit avec et nous nous réveillons en compagnie de cette corruption. Et je peux dire que notre société est en fin de compte tellement gangrénée qu'il serait difficile et très très périlleux d'identifier toutes les causes. Mais les causes essentielles, c'est essentiellement dû à cette perversion de la société, à cette image que notre société a donnée finalement aux Maliens tout court. C'est la course à la richesse. Chacun veut s'enrichir très vite et de façon incontrôlée. Tous les restes se retrouvent dans cette situation.
Okay. Alors, Ousmane Maïga, des choses à ajouter à ces causes-là?
Oui, je pense qu'au-delà de cette cause sociétale, il y a aussi d'autres aspects. Par exemple, le Malien, selon moi, nous confondons un peu la reconnaissance et la corruption parce que la notion de bien public n'est pas très bien assimilée. Et ensuite, il y a aussi des aspects que je dirais sont liés à l'impunité. Parce que c'est des choses qui se font de manière récidive, mais il n'y a pas de sanctions à l'égard des acteurs. Donc, du coup, cela aussi encourage la corruption. Mais en grande partie, je pense que quand on parle de corruption, ce sont surtout les grandes opportunités que les gens ont à faire la corruption. Parce que tant qu'on réduit un peu ces possibilités ou des risques de corruption, je pense que ça peut être aussi un facteur.
Alors, Salihou Guiro, le long des corridors, quelles sont les causes que vous avez pu identifier au Mali?
Avant de parler des corridors, je voudrais me joindre donc à Maître Alifa Habib pour présenter mes condoléances pour la perte de ses homologues avocats. Saisir l'occasion également pour renouveler mes condoléances à notre grand collègue et ami Nicolas Koulibaba, qui est mon team leader, qui est, disons, l'artisan de de toutes ces activités que nous menons dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre du projet Mali Justice, un projet financé par l'USAID. Alors donc je dirais que oui, notre société, on doit la questionner, mais en réalité, la corruption est dans toutes les sociétés. Je crois que Maître Alifa Habib le dit parce que on a le sentiment que c'est devenu normal. La corruption n'est pas normale. On peut la diminuer substantiellement, sinon l'éradiquer. Le long des corridors routiers, la cause fondamentale, c'est un, déjà les agents qui sont sur les corridors, les hommes en uniforme, ils sont prédisposés à ça. Tout le monde le sait maintenant que pour aller entrer dans la police ou la gendarmerie, des gens payent de l'argent. Donc ils y vont pour chercher de l'argent, pas pour travailler. Donc le terrain est déjà fertile. Et quand ils sont face à des opérateurs économiques qui ne sont pas en règle, c'est plus facile pour ces opérateurs d'arranger la situation et continuer. Mais quelquefois, malheureusement, c'est tout simplement des abus. Les opérateurs sont en règle, mais ils vont payer quand même.
Mais au Mali, ce ne sont pas les structures de lutte contre la corruption qui manquent quand même. Il y a de ces années, ils sont en place. Alors, quel bilan peut-on tirer de ces structures-là, à votre avis?
Un bilan négatif. Les structures existent, mais est-ce que les structures ont vraiment les moyens de mener cette lutte? Prenons tout simplement la structure qu'on peut trouver partout dans le monde, les services judiciaires. Est-ce que ces services-là disent le droit? Le vérificateur général fait ses rapports, des gens sont épinglés, mais combien de personnes ont été poursuivies? Donc ce n'est pas le fait de créer des structures qui va faire qu'on vaincra la corruption. Il faut en plus la volonté politique réelle de s'attaquer à ce fléau. Cette volonté politique, je doute qu'elle existe.
Ok. Mais Maître Alifa Salihou vient de parler, vraiment, et au Mali, on dit que le milieu de la justice est un milieu tellement corrompu que une prochaine révolution, c'est possible que ce soit contre cette structure. Alors, à votre avis, quel est le bilan qu'on peut tirer quand même dans la lutte contre la corruption au Mali?
Le bilan est négatif, ne nous voilons pas la face. C'est pourquoi je n'ai pas voulu m'étendre sur les causes de la corruption dans la société malienne. J'ai dit que les causes se trouvent au sein même de notre société. Parce que la corruption est devenue une banalité. Si j'ai dit la lutte, le bilan est négatif, voyez-vous même, il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque le bureau du vérificateur général a été créé, cette création a entraîné un très grand engouement.
Mais Douken disait que c'est une structure de plus.
Non, mais lorsque le bureau a été créé, il y avait beaucoup d'engouement. Et effectivement, les gens avaient fondé beaucoup d'espoir sur ce bureau. Mais voyez-vous même, le nouveau vérificateur général qui vient d'être nommé, il a été nommé de façon totalement... Sa nomination est passée inaperçue. À peine même les journaux en ont parlé. Ce sont des signes qui ne trompent pas. On est dans la deuxième année, la semaine de lutte contre la corruption qui a été instituée, on n'a pas pu l'organiser. Donc ça veut dire que, sans le dire, en fait les Maliens même ne croient même plus à cette lutte-là. Et si vous prenez l'essentiel des causes qu'on va énumérer, le vrai problème est simplement politique, hein. Je ne vais pas vous le cacher.
Maître,
c'est un problème de leadership.
Est-ce que ce n'est pas peut-être ce qui explique l'orientation donnée quand même à la mission du bureau du vérificateur général? Parce qu'il dit qu'il va donner la priorité au contrôle des performances plutôt que...
Oui, mais justement, c'est ce qui m'a fait sourire. Dans un pays où les détournements se font à l'appel, vous créez une structure de contrôle, comment dirais-je, de contrôle, qui va s'atteler essentiellement à une vérification de performance. Ça voudrait dire que cette structure a échoué. Il faut
accentuer, mettre l'accent d'abord sur la vérification financière, punir ceux qui doivent être punis et exploiter les rapports qui ont été déposés déjà par ces deux prédécesseurs avant d'aller vers une évaluation. Vous voulez aller vers une évaluation, vous avez beau évaluer, vous allez évaluer quoi? Si tous les fonds que vous mettez pour aboutir à des résultats sont détournés à l'appel, forcément, dans votre évaluation, va faire la preuve que les fonds sont mal gérés, qu'il n'y a pas d'efficacité, il n'y aura pas d'efficience. C'est évident. Donc, pour résumer, la lutte jusqu'à ce jour est un échec.
Mais selon vous, quels sont les défis majeurs liés à cette lutte contre la corruption au Mali?
Les défis majeurs, c'est d'abord reprendre le leadership. Sur les plans politiques, vous élisez quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment envie de lutter contre la corruption, vous allez voir des résultats demain. Parce que à partir de ce leadership, il va s'appuyer maintenant sur les organes de lutte, les organes de contrôle. Il y en a tellement. Dans tous les départements, vous avez des inspections, vous avez les bureaux de vérificateurs, le contrôle général des services. Il y a une multitude de structures de contrôle. Mais les résultats donnent quoi? Les résultats ne donnent rien. Ce sont des rapports qui dorment dans des tiroirs et les mêmes personnes qui devaient être poursuivies continuent à nous narguer tous les jours. Et ce sont ces mêmes personnes, en fait, qui sont les notables dans nos quartiers. Vous voyez, les notables dans les quartiers, c'est qui? Ce sont les mêmes personnes. Et donc, les vrais défis, c'est d'arrêter avec cette hypocrisie et d'aller vraiment dans une vraie lutte contre la corruption et dans tous les domaines. Vous avez parlé du milieu de la justice. Même chez Sidibé, ce n'est pas simplement la justice. Vous allez dans un autre domaine, vous trouverez que c'est pire.
Oui, on a dit toutes les couches.
C'est toutes les sociétés. Mm-hmm. Mais le problème est grave dans le milieu de la justice parce qu'en principe, c'est la justice qui doit trancher et mettre de l'ordre, qui doit être l'espoir. Et quand la justice faillit, ce n'est pas acceptable.
Oui, quelqu'un a dit qu'il faudrait être près de la justice pour se rendre compte que les hommes sont loin d'être justes. Alors, Ousmane Maïga, vous êtes activiste au niveau de l'AJICAD Mali. Alors, quels sont les défis selon vous, les défis majeurs qui sont liés à la lutte contre la corruption au Mali?
Oui, merci. Je pense que, comme on vient de le dire tout de suite, il y a le manque de volonté politique qui est très crucial. Et ce manque de volonté politique, je le lis un peu aussi à l'engagement citoyen. Pourquoi? C'est notre manière d'élire nos représentants, c'est notre manière d'élire aussi nos chefs et tout, qui peuvent aussi notifier un peu eux de leur engagement par rapport à cela. Pourquoi? Tout de suite, nous serons dans une période d'élection et nous allons assister, c'est sûr, à des achats de conscience qui vont nous conduire à élire une personne à la tête d'une institution ou encore d'une communauté bien donnée. Alors, je pense que le citoyen aussi doit se rendre compte, enfin, que le débit est très important pour la suite dans la lutte contre la corruption. Donc, je pense que l'engagement des citoyens est aussi un très grand défi que nous devons relever, au-delà de ces défis liés un peu aux politiques. Parce que, en ce qui concerne les politiques, je pense que c'est un système qui est assez cyclique, parce que le président de la République, jusqu'aux ministres, jusqu'aux institutions, les services judiciaires et tout, sont des choses qui sont un peu interliées. Et là, je pense qu'il y a une très grande complicité, et aussi une très grande complicité par rapport un peu à la manière dont le citoyen peut s'ingérer dans ses actions. Donc, du coup, ça reste un peu une action qui tourne entre les acteurs politiques et aussi les acteurs un peu, je dirais, du gouvernement et tout. Et on peut pas s'attendre à un résultat. Donc, du coup, il faut l'intervention d'un acteur externe qui pourra aussi mettre la pression sur ces différents acteurs qui ne peut être que la société civile que nous sommes.
Ok, mais l'ancien président, quand même, le président Amadou Toumani Touré, en son temps, il était clair avec son option. Il ne veut pas honnir des chefs de famille. Quand on lui donnait on lui transmettait quand même les rapports d'enquête sur les dossiers sales, donc c'était classé dans le tiroir. Mais avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a clairement décrit qu'il va lutter implacablement contre la corruption au Mali. Mais vous, en tant qu'activiste, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette liste-là?
Je pense que le fait de dire qu'on ne va pas honnir un peu un chef de famille, tout en se rendant compte que ce chef de famille a pris quelque chose qui ne l'appartient pas, ne doit pas également honorer la famille de ce chef de famille ou même la personne qui décide de le protéger. Au-delà de ça, Je pense que l'institutionnalisation de la lutte contre la corruption n'a pas servi à grand chose. Aujourd'hui, comme on vient de le dire, il y a plusieurs services de contrôle dans les services publics, il y a des institutions qui sont plus ou moins indépendantes pour lutter contre la corruption, mais on n'a pas réussi. Donc je pense qu'il faut véritablement que ce soit un engagement au-delà de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et jusqu'à aller à intéresser les personnes qui sont victimes de cette corruption et qu'il y ait aussi un éveil de conscience au niveau de ces individus pour s'engager dans la lutte contre la corruption.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau avec notre thème. Quelle peut être l'implication de la jeunesse dans la lutte contre le phénomène de la corruption au Mali? Nos invités sont Maître Alifa Habib Kone, il est président de l'Association des jeunes avocats du Mali. Ousmane Maïga est secrétaire exécutif de l'AJICAD Mali. Salihu Guiro est chargé de la lutte contre la corruption le long des corridors routiers au projet Mali et Justice. Alors, Salihu Guiro, alors selon vous, quel est l'impact de la corruption sur le développement actuel de la jeunesse même au Mali?
Le premier impact, il faut le dire, quand les ressources de l'État sont détournées, c'est déjà au détriment de toute action qu'on peut entreprendre pour investir dans des activités qui peuvent créer des emplois pour la jeunesse. C'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième, on parle souvent de corruption, mais le népotisme est une forme aussi de détournement dont sont victimes les jeunes. Quand tu ne milites pas dans un parti ou quand tu n'es pas proche d'un responsable, tu ne peux pas accéder à un poste. Cela a un impact sur le développement de la jeunesse. C'est même très dangereux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui auront tendance à vouloir militer pour avoir une place au soleil. Ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est dommage. Moi, je me pose toujours la question, les hauts responsables de nos pays, est-ce qu'ils imaginent un peu cet impact négatif de leur comportement sur la jeunesse, sur la population d'une façon générale et sur la jeunesse? Parce que finalement, ils démobilisent les jeunes et les jeunes croient qu'il faut faire de la politique, qu'il faut être proche d'un homme politique pour avoir un poste. Ce n'est plus le mérite qui paye. Donc, on entre dans une spirale de médiocrité, d'opportunisme, et qui, finalement, ne montre pas la bonne voie aux jeunes. Et c'est dommage.
Okay. Ousmane, alors, quels sont les impacts, selon vous, de la corruption sur le développement de la jeunesse au Mali?
Je pense que la corruption a un effet qui est, je dirais, multisectoriel, parce que c'est à partir d'un peu des ressources qui sont collectées, qu'on doit redistribuer dans les services sociaux de base, notamment l'éducation et la santé, dont les premiers bénéficiaires sont nous, les jeunes. Donc, du coup, le fait qu'on n'ait pas assez de ressources ou les ressources disponibles ne sont pas bien gérées, ça peut avoir un impact sur le système d'éducation ou sur l'éducation des jeunes et ensuite sur aussi les questions de santé. Au-delà de cela, la gouvernance aussi, les questions de paix, sont toujours salis par la corruption qui nous conduit au conflit. Et quand on prend aussi la sécurité, si vous mettez la corruption au milieu, ça nous conduit à l'insécurité et le développement au sous-développement. Et pourquoi nous, jeunes, nous sommes encore les plus victimes de cela? C'est parce que nous sommes l'avenir de ce pays et aussi le présent, bien sûr. Mais si nous continuons ce système de corruption qui perpétue dans notre société, il est très difficile qu'on ait un avenir meilleur parce qu'il n'y aura pas assez de ressources pour le faire, il n'y aura pas assez de volonté pour le faire, et la gouvernance, la stabilité politique, nous ne pouvons pas compter cela. Donc du coup, cela peut être un signe de désespoir pour la jeunesse qui rêve d'un Mali meilleur et plus intègre.
Mais vous avez tantôt touché le domaine éducatif. Alors, selon vous, l'environnement éducatif de la jeunesse est-il favorable à l'émergence d'une jeunesse saine non corruptible? Autrement dit, est-ce qu'on a d'autres choix que d'aller vers ça?
Oui, il y a toujours des jeunes, malgré cet environnement qui est assez défavorable à l'intégrité et tout, des jeunes qui arrivent à s'en sortir. Je pense que c'est une question aussi d'éducation depuis la famille et aussi dans la communauté jusqu'au niveau du système éducatif. Mais ce qui est sûr, déjà dans nos écoles, l'éducation ne met pas trop d'accent sur les questions d'éducation civique ou morale parce que c'est une matière qui est là, mais à l'intérieur, on parle plus de la connaissance de l'État, de la civilité, mais des actions de lutte contre la corruption, de l'intégrité, je pense qu'on doit mettre encore plus d'accent. Et si on part au-delà de l'éducation primaire, de base et tout, au niveau supérieur, nous remarquons que dans nos universités, c'est très difficile pour les étudiants parce que l'environnement est très favorable à la corruption et à tous les niveaux et tous les acteurs du monde universitaire sont de loin ou de près impliqués dans ce système de corruption. Donc, si cela doit être la sortie d'un jeune du système scolaire, s'il sort avec cela, je crains que ça n'ait un impact sur sa vie professionnelle et même sur ce qu'il pourra entreprendre plus tard.
Okay. Maître Alifa, les impacts de la corruption sur le développement actuel de la jeunesse somalie?
L'impact direct, c'est le problème de prise en charge des besoins de la population, notamment le problème d'accès aux services sociaux de base. Et je prends un seul exemple, l'éducation. Vous voyez ce qu'est devenu notre système éducatif. Et pendant ce temps, officiellement, je ne vous l'apprends pas, on nous apprend qu'il y a un certain nombre de professeurs qui émargent sur le budget et qui n'existent pas. Ce n'est pas de moi, c'est le ministre de l'Éducation qui vient de démissionner, qui l'a dit publiquement. Beaucoup de gens à son niveau émergent sur le budget. Il y a des élèves fictifs. Forcément, c'est de l'argent qu'on perd quelque part et qui aurait pu servir à créer des emplois, à donner de l'eau aux gens, à construire des écoles. Et vous voyez, ça, c'est l'impact direct. Deuxième chose, c'est qu'en fin de compte, même sur le plan sociologique, on donne une mauvaise image aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus sûrs que ce soit l'effort qui paye. Ce n'est pas le plus méritant qui est recruté. Et les gens sont recrutés par des voies indirectes. Et en fin de compte, on se demande, si vous n'êtes pas psychologiquement fort, vous vous posez la question, est-ce qu'il sert à quelque chose de travailler correctement et de bien se conduire. Et vous voyez, si c'était cette image et cette éducation qu'on doit transmettre à nos enfants, la conséquence va plus loin qu'aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 15 ans, que sera notre pays? C'est ça la vraie question et c'est ça notre inquiétude. On nous dit qu'on a créé je ne sais pas combien de milliers d'emplois et il y a un jeune sur Facebook qui demandait qu'on lui publie, qu'on lui identifie réellement les emplois qui ont été créés. Et je pense que ce ne serait pas un mauvais exercice si, effectivement, durant les 3-4 dernières années, on a créé 10 000 emplois, qu'on nous publie de façon transparente, 20 000 ou 60 000, qu'on nous publie de façon transparente quels sont ces emplois qui ont été créés. Et si réellement les ressources de l'État sont bien gérées, voilà des utilisations qu'on peut faire sans parler de l'aspect sécuritaire. Aujourd'hui, M. Sidibé, vous avez de l'argent en poste, vous pouvez quitter Bamako, vous allez jusqu'à Gao, peut-être que personne ne va venir même regarder dans votre véhicule qu'est-ce que vous avez dans le véhicule. Quand vous arrivez à un poste de contrôle, vous vous inquiétez même pour la sécurité des gens qui sont chargés de faire le contrôle. Parce que vous voyez, les passagers qui n'ont pas de pièces d'identité, la collecte des 500 000 francs, vous avez l'impression que c'est ce qui préoccupe plus que de vérifier ce qu'il y a réellement dans le véhicule.
Mais les chauffeurs même, ils se mettent dans l'exercice.
Et exactement, c'est tout le monde en fin de compte. Et quand on en arrive à ce niveau, il y a vraiment de quoi s'inquiéter.
Mais est-ce que selon vous, la jeunesse a d'autres choix que d'aller vers ça?
La jeunesse a d'autres choix. La jeunesse a d'autres choix. Comment? Et la jeunesse est en train de faire d'autres choix. Vous prenez le projet de révision constitutionnelle qui était là. Qui a fait échouer ce projet? C'est essentiellement des jeunes. Et ça veut dire que les jeunes ont commencé à prendre conscience. Maintenant, moi, j'espère simplement que les jeunes, autant qu'ils sont sortis pour s'opposer à cette révision constitutionnelle, vont sortir pour voter pour qui il faut et sur la base de vrais programmes de développement. Pas sur des simples incantations, mais sur la base de vrais programmes de développement. Et que les jeunes, si effectivement les choses ne vont pas, vont s'organiser pour demander des comptes aux politiques et à ceux qui nous gèrent.
Alors, Salihu Guiro, donc on va rester toujours dans le milieu de la jeunesse. Hein. On sait qu'on a tellement de choses à dire pour le milieu de l'éducation, où on voit la création de certaines écoles privées, donc des élèves qui transfèrent d'une école à une autre, et avec la complicité des fondateurs, ouais, voilà, des choses comme ça. Et vous, au niveau du projet Mali Justice, au-delà des corridors, est-ce que vous pensez que les jeunes ont d'autre choix que d'aller vers cette corruption, avec tout ce qu'il y a autour d'eux dans le milieu éducatif?
J'avoue que l'environnement est très défavorable, mais pour avoir été sur le terrain, j'ai rencontré des jeunes qui sont vraiment engagés pour la lutte contre la corruption. L'un des exemples, c'est la JICAT, dont le secrétaire exécutif est là. Je les ai rencontrés sur le terrain, on les a recrutés et on les utilise à mobiliser les jeunes dans le cadre de la lutte contre la corruption. Récemment, ils viennent d'une mission à Sikasso où ils ont mobilisé les jeunes de la région de Sikasso, les sensibiliser, les informer sur la corruption et sur comment ils peuvent contribuer à lutter contre ce phénomène. Maître Alifa Habib Kone, nous sommes rencontrés également dans le cadre d'une activité du genre. C'était la table ronde sur la lutte contre la corruption. Il a été l'un des présentateurs à cette occasion et les jeunes ont été réunis. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Il y a des jeunes qui sont mobilisés et on peut continuer à les mobiliser. Et comme Maître Alifa Habib l'a dit, ces jeunes, je crois qu'ils sont de plus en plus conscients et il faut qu'ils sachent que leur bulletin de vote compte. Je suis sûr qu'ils ont déjà commencé à travailler, sensibiliser les jeunes, mais aller au-delà même des jeunes, expliquer aux autres populations l'intérêt du Mali, c'est arriver à trouver le bon dirigeant qui a l'ambition, qui a la vision pour travailler uniquement pour les intérêts du Mali et des Maliens. Si les jeunes peuvent faire cela, ce sera une très bonne chose. Mais au projet Mali Justice, oui, nous avons trois composantes. Je suis là au nom d'une composante, lutte contre la corruption le long des corridors routiers. Et nous avons deux autres composantes. La première, c'est l'appui institutionnel, appui aux institutions judiciaires. Et c'est la plus grosse. Et il y a une deuxième, faciliter l'accès à la justice de tous les citoyens maliens, y compris la justice informelle ou traditionnelle, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc nous avons ces composantes qui travaillent dans ces domaines et qui couvrent tout le Mali.
Ah, ok. Donc vous avez entamé déjà le dernier volet quand même de ce débat qui concerne les propositions des solutions. Alors selon vous, comment amoindrir les facteurs qui sabotent l'implication de la jeunesse dans la lutte contre la corruption?
Déjà, il faut dire que c'est pas les jeunes peuvent s'activer, mobiliser, sensibiliser les jeunes à être de bons citoyens. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit les jeunes qui détiennent les moyens pour lutter contre la corruption. Les moyens, il faut commencer déjà par une volonté politique bien exprimée. Que la population sente que cette volonté politique est réelle. Moi, quand un homme politique me dit qu'il veut lutter contre la corruption et que je vois dans son entourage des gens connus pour leur corruption active, pour des détournements, en tout cas des gens qui n'ont pas la bonne image auprès de l'opinion publique, je me dis, mais il plaisante. Ah oui, il prend les Maliens pour ce qu'ils ne sont pas. Donc c'est déjà la volonté politique d'abord. et ensuite les institutions, les autres institutions qui contribuent à lutter contre la corruption. Mais les jeunes pourront toujours sensibiliser, former à la citoyenneté, mais ce n'est pas les jeunes qui peuvent lutter contre la corruption.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Retour donc sur ce plateau avec notre thème, la lutte contre la corruption au Mali. Quelle peut être l'implication de la jeunesse dans cette lutte contre ce phénomène avec nos invités, Maître Alifa Habib Kone, il est président de l'Association des jeunes avocats du Mali. Ousmane Maïga est secrétaire exécutif de l'AJICAD Mali. Salihou Guiro est chargé de la lutte contre la corruption le long des corridors routiers au projet Mali Justice. Alors, Salihou, votre rédaction, vous aviez une rédaction tout juste à la pause.
Alors, je disais donc, je reviens là-dessus, volonté politique et institution dédiée à la lutte contre la corruption et évidemment, comment dirais-je, pas d'impunité.
Très bien.
Personne n'est au-dessus de la loi.
Okay. Merci beaucoup. Alors, Maître Alifa Habib, alors selon vous, comment amoindrir les facteurs qui sabotent l'émergence d'une jeunesse sont non corruptibles au Mali?
Monsieur Sidibé, merci. Je crois que la responsabilité est tout d'abord collective. Collective en ce sens que dans un système démocratique, on confie le pouvoir à quelqu'un pour gérer à notre place. Mais ce n'est pas un pouvoir qui est confié sans contrôle. Et lorsque ça ne va pas, c'est à la société civile de se mobiliser pour exiger des choses. Nous avons tous beaucoup espéré lorsque la loi portant prévention et lutte contre l'enrichissement illicite a été adoptée. Mais voyez-vous où est cette loi aujourd'hui? Cette loi a été suspendue alors que nous demeurons convaincus que cette loi était une des solutions pour lutter contre la corruption. Et je demeure convaincu qu'à ce jour, si la vraie lutte contre l'enrichissement illicite recommence, on va aboutir à des résultats parce que beaucoup de gens vont vomir ce qu'ils ont dû prendre de façon illégale. Maintenant, sur le terrain individuel aussi, c'est une responsabilité de tout un chacun. Il s'agit d'accepter de dire non à la corruption. Et les jeunes avocats disent non à la corruption. Ils l'affirment partout où ils doivent les réaffirmer. Prenez un simple exemple. J'étais en train de m'amuser un peu en parcourant les derniers rapports du vérificateur général. Et il est textuellement écrit là-dedans que lorsqu'ils ont contrôlé l'attribution des derniers logements sociaux, ils ont trouvé que le ministre du logement à l'époque avait lui-même personnellement irrégulièrement attribué 50 logements et que la commission d'attribution des logements avait irrégulièrement attribué 141 logements. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est expressément écrit dans les rapports du vérificateur général. C'est public. Maintenant, M. Sidibé, qu'est-ce qu'on fait de cette révélation? C'est ça la question. Et ça, ce n'est plus simplement de la responsabilité des politiques, ça c'est de la responsabilité de tous les Maliens. Parce que des rapports officiels pointent des gens nommément pour dire ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et ces gens se promènent impunément et en revenant même peut-être briguer le suffrage des Maliens. Et il y aura encore des Maliens qui vont voter pour de telles personnes pour les diriger. Donc c'est pourquoi j'ai dit le problème n'est plus simplement au niveau des politiques. Il est citoyen parce que c'est à nous de dire à telle et telle personne qui se présente devant nous, non, vous n'êtes plus digne d'être devant nous et il faut qu'on exige que des poursuites soient initiées contre ces gens parce que vraiment l'impunité a suffisamment duré et si on veut vraiment construire ces pays, c'est à la jeunesse de mobiliser comme elle a mobilisé pour s'ériger contre la réforme constitutionnelle et institutionnelle pour que ces pays-là aillent finalement de l'avant.
Oui, il n'est pas impossible que le ministre en question la postule pour la magistrature suprême au nom de l'ADEMA. Alors, Ousmane Maïga. Donc, comment faire selon vous pour amoindrir les facteurs qui sabotent l'implication de la jeunesse dans la lutte contre la corruption? Parce qu'on sait quand même que ce n'est pas l'élaboration des textes qui manque, ce n'est pas la mise en place des structures qui manque, mais en tout cas, ça ne marche pas.
Oui. Chez nous, à l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, notre vision du Mali, c'est une nation prospère et pacifiée dans laquelle surtout l'état de droit est instauré. Et qui parle d'instauration de l'état de droit parle du respect d'abord de ces textes et de ces institutions et leur application en tant que telle. Mais aussi, il y a cet aspect qui est très important, qui est un peu l'engagement du jeune citoyen dans la promotion de la citoyenneté pour avoir cet état du Mali que nous voulons. Alors pour cela, d'abord, l'un des facteurs qui est très important, c'est d'abord de tout faire pour éviter l'instrumentalisation et la manipulation des jeunes. Parce qu'on l'a toujours vu, les jeunes ont été de tout le temps manipulés par des politiques, par des opérateurs économiques, par d'autres acteurs pour lutter pour leur cause à eux, mais pas pour les causes de la jeunesse. Alors que cette corruption, on vient de le dire au début, que ça affecte beaucoup la jeunesse. Alors, à GICAD, nous avons notre stratégie d'intervention qui, selon nous, peut aussi contribuer à plus impliquer les jeunes au-delà des aspects de sensibilisation et de mobilisation, que les jeunes soient des véritables acteurs de changement des politiques et des législations qui existent en matière de lutte contre la corruption à travers l'influence de ces responsables politiques ou encore de ces décideurs qui travaillent sur les thématiques de lutte contre la corruption. Nous avons eu des cafés citoyens, c'est un concept de AGICAD Mali qui a réuni un peu le bureau du vérificateur général et les jeunes qui ont échangé sur le contenu, et je vous assure que ces jeunes étaient à la sortie très engagés à lutter contre la corruption. Donc c'est ce qui nous amène aux quatre piliers de la lutte contre la corruption qui sont surtout la transparence. Il faut que nous jeunes, nous ayons l'information. Il faut que nous soyons au courant de ce qui se passe et de comment est-ce que les choses doivent se passer. Ensuite, il faut qu'on s'implique à travers la participation au niveau local, dans l'élaboration des politiques, des programmes de développement au niveau local, afin de pouvoir demander compte à ces responsables de la gestion, notamment les collectivités au niveau local, parce que c'est eux aussi qui gèrent un peu les services sociaux de base à ce niveau. Donc il faut que nous participions à la conception, mais aussi au contrôle des actions qui sont posées par ces services au niveau local et même au niveau national. Alors là, ensuite, la redevabilité va au-delà du niveau local, parce que tout ce qu'on vient de dire tout de suite, le rapport du vérificateur général, l'État malien est obligé de rendre compte aux Maliens qui les ont mis sur place et à qui ils doivent tout ce qu'ils font. Donc du coup, il faut que la société civile que nous sommes aussi, nous nous engageons à étudier encore de manière plus professionnelle et à faire sortir des argumentaires pour pouvoir dire au gouvernement que c'est assez. Et ensuite, le dernier aspect sur lequel nous travaillons, c'est l'intégrité individuelle. Il faut que le jeune malien aussi continue à cultiver l'intégrité, à ne pas toujours vouloir être des modèles qui sont devant eux, qui ne sont pas, selon moi, des vrais modèles de réussite, parce que qui ont basé leur réussite sur la corruption ou sur d'autres faits qui ne sont pas du tout licites et même morales. Donc, du coup, on doit avoir une autre image du malien intègre, du malien qui se bat pour soi. Et je pense que tout ce que je viens de dire, les preuves ont été montrées au Burkina Faso, au Sénégal et dans d'autres pays où les jeunes sont devenus les véritables acteurs de changement de tout un système. Et pourquoi pas pour la lutte contre la corruption aussi.
Ok. Maître Alifa, quelles peuvent être les pistes de solutions pour résoudre les défis que vous avez tantôt énumérés?
En fait, la lutte contre la corruption, elle n'est pas très compliquée. Hein. L'exemple simple que je vais vous prendre, c'est le dernier recrutement des auditeurs de justice, en fait les magistrats. Ces concours, lorsque nous avons vu les résultats, nous avons vu dans la liste certaines personnes. Et nous nous sommes dit, tiens, il y a un minimum de transparence qui a prévalu dans ce concours. Et c'est par des exemples comme ça qu'on va y arriver. C'est pour vous dire félicitations au ministre de la Justice qui a accepté d'organiser ce concours dans la transparence. Et c'est comme ça que nous allons construire le pays. L'autre exemple, c'est au niveau du barreau. Les avocats se sont donnés comme challenge de faire un recrutement totalement transparent. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui a toujours prévalu. Et nous allons veiller à ce que cela soit toujours. Monsieur Sylvie, je pense que c'est par ça d'abord qu'on va commencer. Monsieur Guiraud avait mis le focus dessus. Ce n'est pas la qualité des hommes qu'on va lutter et construire ces pays. Et la qualité des hommes suppose quoi? C'est d'abord les recrutements. Vous faites un mauvais recrutement, vous aurez forcément des mauvais hommes. Mais vous commencez par un bon recrutement. C'est à travers cette qualité qu'individuellement, les gens vont se mettre au travail et faire du bon travail. Donc, j'insiste essentiellement sur le recrutement et au niveau de la fonction publique générale et au niveau des autres recrutements. Ensuite, la vraie responsabilité, c'est au niveau de la société civile. Et j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, la lutte contre la corruption, si elle doit se faire, le facteur déclencheur va venir de la jeunesse. Si les jeunes se mobilisent, toutes ces grandes luttes, toutes ces révolutions qu'on a vues, Mars 91, ne vous leurrez pas, ce n'étaient pas les plus anciens qui ont été à la base de la révolution. Ce sont les plus jeunes qui ont dit « maintenant, ça suffit ». Et aujourd'hui, si la jeunesse fait de même, il a pris l'exemple du Burkina. Thomas Sankara, il avait quel âge quand il arrivait au pouvoir? Donc, c'est vous dire que jeunesse peut, simplement, il faut qu'on s'organise et qu'on mobilise les restes de la société civile. Je parle de la vraie société civile. Et une fois que cette société civile est mobilisée, les politiques n'auront pas le choix. Ils seront obligés de suivre. Et notamment, cette lutte contre l'enrichissement illicite, elle sera certainement de nouveau à l'ordre du jour. Merci.
Alors, Ousmane Maïga, on dit traditionnellement chez nous, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Alors, Maître Alifa vient de dire aujourd'hui que la jeunesse peut bien. Alors, selon vous, quelles peuvent être les pistes de solutions pour résoudre les défis qui se posent à la lutte contre la corruption au Mali?
Oui, je pense que heureusement pour nous, cette jeunesse malienne, nous avons avec nous notre âge qui n'est pas aussi avancé. Nous avons assisté à beaucoup de cas qui nous a déjà saisi, je dirais, nous a rendu sages déjà avant qu'on soit assez âgé. Parce que tout ce qu'on voit devant nous et toutes ces injustices et tous ces détournements ont ouvert les yeux de la jeunesse et la jeunesse s'est rendue compte qu'il faut qu'elle s'engage. Alors, pour relever ces défis, je pense qu'il faut une très grande organisation au niveau de la jeunesse elle-même, parce qu'il y a plusieurs organisations de jeunes, associations et groupements qui veulent lutter contre la corruption et aussi qui veulent un Mali où la bonne gouvernance règne. Donc, il faut qu'il y ait une très grande organisation au niveau. Alors, ensuite, il faut que la jeunesse s'habitue à la dénonciation. Il faut qu'on dénonce quand on voit des cas. On peut les dénoncer à travers les réseaux sociaux, on peut les dénoncer à travers des espaces comme le débat ici, ou aussi à travers des activités plus communautaires en informant les populations de manière générale. Et ensuite, quand on aura une très grande mobilisation, engagement des citoyens, il faut qu'on parte à l'influence des politiques. Il faut que les politiques sachent qu'il y a des jeunes maliens qui ne veulent pas de la corruption et qui sont prêts à les interpeller partout où ils sont sur cette thématique qui est d'un intérêt capital pour leur avenir et surtout pour leur présent parce qu'on parle d'accès aux services sociaux de base. Donc je pense qu'avec ce mécanisme, les jeunes, nous pourrons vraiment utiliser notre énergie à travers la synergie qu'on va mettre en place pour lutter contre la corruption de manière très efficace et sans être instrumentalisé.
Ok. Monsieur Guiraud, quelques pistes de solutions pour résoudre les défis?
Quelques pistes de solutions. Alors, il a parlé de dénonciation. Alors, je ne sais pas dans l'environnement actuel à quoi pourrait servir une dénonciation. Quand Maître Alifa Habib a dit qu'il a écrit noir sur blanc dans des rapports qu'il y a eu tel et tel détournement, que rien n'est fait, je ne sais pas à quoi servira une dénonciation. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est communiquer aux autorités compétentes. Si rien n'est fait, je ne sais pas à quoi va servir une dénonciation. Encore une fois, volonté politique manifeste. C'est pas des incantations, une volonté politique manifeste. Et la population malienne attendra pour sanctionner avec son bulletin de vote. Les jeunes ont l'occasion déjà de le faire, tous les Maliens.
Okay. Merci beaucoup à Maître Alifa Habib Kone, président de l'Association des jeunes avocats du Mali. Merci à Ousmane Maïga, secrétaire exécutif de l'AJICAD Mali. Merci Salihu Guiraud, chargé de la lutte contre la corruption le long des corridors routiers au projet Mali Justice. Donc nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site. site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mis en onde par Nuhun Diré. La régie vidéo était assurée par Peting Diara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation. À la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halud Mouni.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.